Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Affaire en pain, deuxième épisode, nous recevons Eric Young. Bonjour Eric Young.
Bonjour.
Dans les années 70, vous étiez policier au sein de l'anti-gang et vous avez entre autres arrêté les ravisseurs du baron Empain. Mais vous avez aussi, Eric, enquêté sur un énorme scandale politique, l'assassinat de Jean de Breuil. Et sur cette affaire, Eric, tout n'a pas été dit et tout n'a pas été raconté.
C'est une drôle d'histoire parce qu'elle a débuté tout à fait dans une enquête, des investigations de droit commun. À l'époque, la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, donc l'anti-gang, travaillait sur des braqueurs, quoi, des braqueurs de banque qu'on faisait en flagrant délit, généralement, c'était la nouvelle méthode. Et on travaillait sur deux bonhommes, deux truands, deux voyous qui étaient répertoriés d'ailleurs au grand banditisme, qui s'appelaient Alain Bernard et Simon Tudkovitch. Donc on nous avait dit que ces gens-là allait passer à l'acte et sans doute braquer une banque dans Paris. Donc il y en a mis, comme d'habitude, comme on faisait, tout un tas de systèmes de surveillance, des écoutes téléphoniques, on surveillait le domicile avec des sous-marins, vous savez, ces petites camionnettes qu'on met près des domiciles et qui sont censées d'ailleurs être anonymes, mais que les voyous ont très vite appris à reconnaître.
Des petits camions dans lesquels vous avez passé de très 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 nombreuses heures.
Oui, des heures entières et connu aussi quelques aventures un peu comiques. Et au bout de plusieurs semaines, Alain Bernard et Simon Tullivitz ne bougeaient pas trop, mais on les suivait partout et on voyait qu'ils avaient des habitudes dans des bars, des rendez-vous de voyous à Paris, etc. Mais cette histoire de hold-up ne venait pas. Jusqu'au jour où, à notre grande surprise, il y a un incident à peine croyable. Figurez-vous que les brigades territoriales, à l'époque, étaient des petites unités de police judiciaire qui étaient chargées de pénétrer le grand banditisme, n'avaient pas beaucoup de matériel. Et il était d'usage courant que ces collègues-là viennent à la brigade anti-gang pour emprunter notre matériel, qu'on avait évidemment beaucoup plus nombreux. Et un jour, les gens de la 10e brigade territoriale viennent nous prendre un sous-marin. Mais ils ne nous disent pas pourquoi, puis ça ne nous regarde pas, etc. Sauf que nous, on continue nos investigations sur André Bernard et Simon Tudkovitch. Et on va dans un bar du 9e arrondissement, enfin devant un bar du 9e arrondissement. Et il faut que vous sachiez pour bien comprendre que les véhicules de police judiciaire sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un interradio. C'est-à-dire qu'on cause de voiture à voiture sans que les états-majors écoutent. Et sur les lieux de cette planque, devant le bistrot, dans le 9e arrondissement, on entend une voiture qui est notre indicatif, qui est notre sous-marin, qui parle exactement des mêmes choses que nous on voit. C'est-à-dire, ben, André Bernard sort du bar, tiens, il y a un type qui vient de rentrer, il rejoint André Bernard, il cause devant le coffre de la voiture qui vient d'ouvrir, etc. Et c'est ce que nous voyons, nous, on dit. Attends, c'est les gars de la 10e BT, ils viennent travailler sur notre affaire, ça va pas. Donc on détecte évidemment le sous-marin, on va frapper à la porte du sous-marin, et là sortent nos collègues, et on leur dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi, les gars? Pourquoi vous travaillez sur notre affaire, sans rien? Et là, un inspecteur de police, dont on parlera beaucoup après dans l'affaire, qui s'appelle Michel Roux, dit, oh là là, on peut pas vous dire, c'est une grosse, grosse affaire sur laquelle on est, ça n'a rien à voir avec vos braqueurs, etc. Mais enfin, nous, on supporte pas ça. Et on organise un déjeuner, je me souviens, à l'hôtel de ville. On appelait ça, ce restaurant, le rat mort, tellement c'était mauvais. Et on donne rendez-vous à Michel Roux, l'un de ses collègues, et puis nous, le groupe Ploui de la brigade anti-gang. Et au fur et à mesure de la discussion, l'inspecteur Roux nous dit, bah écoutez, je vais vous mettre au parfum. Et là, il plonge sa main dans son cartable, sort un long rapport, et sur ce rapport, il est explosif. Sur le rapport, il a noté qu'il a appris par un indicateur qu'un certain Jean de Breuil allait se faire assassiner. Et que c'était un homme, un ancien député, enfin il nous donne le profil de Jean de Breuil, et que ça va se faire incessamment sous peu, et que ils ont entendu effectivement que nos deux gars, André Bernard et Simon Tudkovitch, pouvaient être concernés par cet assassinat. Et alors là, on se dit, c'est quand même curieux, quoi. On réfère de tout ça, à l'époque, à notre hiérarchie. Il y a un rapport qui est fait.
Alors ça, c'est combien de temps avant l'assassinat ?
C'est plus d'un mois avant l'assassinat. C'est plus d'un mois avant l'assassinat. Ce qui va expliquer tout ce qui va se passer, d'ailleurs.
Et quand vous en parlez à votre hiérarchie, qu'est-ce qui se passe alors ?
Quand on en parle à la hiérarchie, ils prennent note et on nous charge de collaborer, d'aider nos collègues de la 10e BT. Et on fait la surveillance de tout le monde. Et c'est au fil de ces surveillances qu'on apprend qu'en banlieue, en grande banlieue parisienne, va se tenir une sorte de réunion sommet dans un restaurant qui s'appelle l'Auberge du Cheval Blanc. Et évidemment, on y va avec tous les moyens de surveillance que l'on a, moto, voiture, sous-marin. Et c'est mon chef de groupe, René Plouy, le pauvre, qui est dans le sous-marin. Et à un moment, on prend des photos des gens qui sont évidemment dans le restaurant. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avec eux, il y a un policier qui s'appelle Guy Simonet. Guy Simonet, qui était inspecteur de police à l'époque à la Défense. Et évidemment, Guy Simonet connaît les matériels de la brigade anti-gang et repère le sous-marin. Et là, il sort du restaurant, tourne autour du sous-marin. Et mon chef de groupe, à l'époque, passe un appel radio en inter, en voiture, et dit, il faut venir me dégager parce qu'on est mordu. C'était le mot de jargon policier. On est mordu. Et à ce moment-là, tous les voyous sortent, montent dans la 504, conduite par l'inspecteur de police Simonet, et nous prennent, nous, en filature. Et évidemment, moi, je vais et je tombe dans une impasse, et je suis obligé de faire demi-tour dans l'impasse, devant Guy Simonet et tous les autres, dont Gérard Frêche, qui était là, celui qui allait tirer sur Debreuil. Et il nous voit, et Guy Simonet me regarde en souriant, et on décroche. Et quand on arrive à la brigade au Quai des Orfèvres, on fait part, évidemment, de cet incident, qui est quand même grave. Et là, mystérieusement, notre hiérarchie dit « De toute façon, vous laissez tomber cette affaire. »
Donc, si j'ai bien compris, on est quelques semaines avant l'assassinat de Jean Debreuil. Deux services de police, le vôtre et un autre service de police parisien, font une surveillance sur des truands. Ils sont au courant qu'il y a un projet d'assassinat de Jean Debreuil. Lors d'une surveillance, vous tombez en plus sur les truands qui vont assassiner Jean Debreuil et qui sont, ce jour-là, avec un autre policier.
C'est exactement ça.
C'est une histoire de fou.
Oui, c'est une histoire de fou.
Et quand vous signalez tout ça à votre hiérarchie, la hiérarchie dit « bon, ben, on arrête l'affaire ». Arrêtez vos surveillances.
C'est ce qui se passe. Ça étonne plus d'un dans le groupe. Moi, ça m'étonne énormément. Et je me souviens même d'un collègue qui s'exclame, qui était un vieux de la vieille, qui s'exclame et dit « Oh, cette affaire, elle est chaude. C'est une nouvelle affaire Ben Barka. » Vous savez, Ben Barka, de l'enlèvement qu'il y a eu dans Saint-Germain-des-Prés, qui a fait un scandale en son temps sous le général de Gaulle. Et c'était pour dire la dimension que l'on pressentait de cette affaire. Mais flic est discipliné, donc on a laissé tomber.
Vous laissez tomber, quelques semaines plus tard, Jean Debreuil est assassiné. Vous réagissez comment ?
On réagit, moi je me souviens de l'annonce, je rentrais chez moi parce que c'était le soir de Noël, avec une voiture de service, j'étais sur le boulevard Sébastopol, et j'entends un appel général... Coup de feu, rue des Dardanelles, dans le 17e arrondissement, un homme par terre, etc. Il n'y avait pas le nom ni rien. Et donc TNZ1, c'était indicatif de l'état-major. Aux voitures les plus proches, veuillez vous rendre, etc. La brigade criminelle arrive, etc. Et évidemment, moi, mais comme tous ceux qui ont entendu ce message, tout de suite on a dit « Ah, ça sent l'affaire Debreuil ». Ça ne s'appelait pas encore comme ça. Mais ça l'est devenu très, très vite.
Et alors, 5 jours après l'assassinat, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, donne, dans les locaux de la police judiciaire, une conférence de presse. Et il dit, bon, voilà, on sait tout. Pas de soucis, les assassins ont été arrêtés. La police a bien travaillé. Si je résume.
Non, mais c'est exactement ça. Et c'est extraordinaire, c'est impensable, c'est... Enfin, il faut imaginer. Donc la police vient d'arrêter tous les protagonistes de l'affaire, effectivement, Pierre de Varca, Alain Edremont, le tireur Gérard Fraîche, l'inspecteur Simonet et d'autres personnes. Tout le monde est en garde à vue. Mais personne ne peut affirmer que ce sont eux qui ont fait cet assassinat, qui ont commis, organisé, exécuté le contrat. Ça fait rien. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui manifestement était gêné par cette affaire. Et ça, c'est unique, unique dans l'histoire de la République française, qui décide de faire une conférence de presse, en plus, dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres. Je me souviens de cette scène hallucinante où vous avez le ministre de l'Intérieur, flanqué du ministre de la Justice, Monsieur Guichard, qui était pâle comme tout, qui disait « Mais qu'est-ce qu'il me fait, là, mon collègue ?» Et à mon avis, il disait pas « Mon collègue » dans sa tête. Hein. « Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là, quoi ?» Et Poniatowski, qui dit « Voilà, je vous annonce, je me souviens du terme, la boucle est bouclée. La police a arrêté tous les protagonistes de cet assassinat. Le mobile est connu. Et là, il annonce, le ministre de l'Intérieur, le mobile, eh bien, c'est assez simple. Ce monsieur Debreuil avait un accord passé sur le financement d'un restaurant. Il ne pouvait pas rembourser sa dette. Il a donc été assassiné par un commanditaire qui s'appelle monsieur Pierre de Varga, un escroc, etc. » Et il donne les noms des gens. Et il dit qu'ils sont coupables. Ils ont même pas été jugés. Ils sont toujours en garde à vue. Et là, ça étonne tout le monde. Je me souviens de la tête du commissaire Ottavioli, patron de la brigade criminelle. Je vous le disais, de Olivier Guichard, vieux gaulliste un peu raide, qui avait des valeurs judiciaires en particulier très strictes, qu'il respectait. Et qui, tout le monde était blanc d'étonnement. Et c'est parti comme ça.
Et alors, vous, policiers, vous qui savez qu'il y avait eu des surveillances avant, vous qui savez qu'il s'agit peut-être et probablement d'une autre affaire, il y a d'autres raisons à l'assassinat de Jean Debreuil, comment vous faites ? Vous taisez ? Vous manifestez auprès de votre hiérarchie ? C'est plutôt ce que vous faites, je crois.
En ce qui me concerne, je dis c'est pas possible. Quoi. Attends, on savait que ce type était menacé d'assassinat. On est flic quand même, on a quand même laissé assassiner un mec en sachant qu'il allait se faire buter. Quoi. Et on en discute, on me dit, on recommande de pas me mêler de ça, etc. Et à l'époque, j'étais jeune, présomptueux et sans doute un peu naïf. Et je suis parti dans une quête un peu à la... une quête comme un chevalier blanc, une bêtise, parce que avec l'expérience, j'aurais pu faire exactement la même chose, mais mieux. Et à partir de là, je me heurte à ma hiérarchie.
Alors, à l'époque, il faut le dire, hein, vous établissez un rapport, vous racontez tout dans un rapport. Ouais, ces exactement. Rapports, vous en faites d'ailleurs trois ouais. exemplaires que vous cachez.
Oui, parce que, pour l'anecdote, il y a eu une révolution dans la police que j'ai connue. Dans les années, comme ça, fin des années 60. Jusque-là, on faisait des procès-verbaux. En double, en triple, hein. Et c'était des papiers carbone, on tapait à la machine à écrire mécanique, et ces pelures, comme on appelait ça, c'est-à-dire ces doubles de procédures ou de rapports, partaient dans les services jusque dans la direction, et évidemment, il y avait toujours un commissaire, un directeur, quand il y avait des affaires un peu chaudes, qui voulaient toujours se protéger, donc ils avaient tous des coffres forts, et ils mettaient un exemplaire de cette procédure dans leur coffre personnel, et puis... est arrivée la révolution dans la police. La révolution, c'était l'arrivée de la machine à photocopier. Et à partir de là, les pouvoirs internes à la police ont complètement été chamboulés. C'est-à-dire que les inspecteurs de police ou les officiers de police judiciaire, comme moi, etc., on avait aussi la possibilité de conserver pour nous un double des dossiers que nous faisions. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai fait en trois exemplaires que j'ai mis dans trois coffres différents. Et
trois coffres de banque ou de...
Trois coffres de banque que j'avais loués sous des pseudonymes. Et j'avais entassé à l'époque ces rapports. Et après, quand j'étais interpellé dans le cadre de cette
Alors,
affaire...
Alors, on va y arriver. Vous cachez les preuves ou les éléments que vous avez en votre possession.
Oui.
Vous faites savoir que ce n'est pas possible qu'on en reste à cette version. qu'est-ce qui va vous arriver, vous, comme policier, à partir de là? Toute une série d'ennuis, et le terme d'ennui est un peu faible.
Oui. Alors déjà, à l'époque, j'avais un ami, enfin, je l'ai toujours, parce que dans ma tête, il est toujours vivant, fort connu, qui était un journaliste de la télévision, Yves Mourouzi. Et quelques temps après ma révolte, je ne sais pas comment on peut, ma rébellion, l'appartement d'Yves chez qui j'étais a explosé, où des gens sont venus mettre une bombe. Et pour vous dire la puissance de la bombe, c'est tout l'immeuble qui a été détruit et la cage d'ascenseur a traversé toutes les étages, a percé le plafond. Et la cage d'ascenseur a été retrouvée à 150 mètres dans le bois de Boulogne. À l'époque, l'appartement était boulevard Suchet. Donc, il y avait eu cet attentat. En début, on a cru que c'était pour Yves Mourouzi. Ça, c'est peu probable.
Voilà, tout le monde a pensé que celui qui était visé dans cet attentat, ce n'est pas vous qui vous trouviez avec Yves Mourouzi à ce moment-là dans l'appartement, mais Yves Mourouzi. En réalité, vous pensez l'inverse. Vous pensez que c'était bien vous qui
était visé. Oui, mais pas tout de suite, d'ailleurs. Véritablement, je ne peux pas le rapprochement. C'est après, quand on commence, lui et moi, enfin Yves et moi, à nous renseigner, essayer de chercher des informations sur qui aurait pu commettre cet attentat, qui avait été revendiqué d'ailleurs par un groupe arabe, un truc bidon, quoi. Voilà. Et toujours est-il que dans l'attentat, où on est rescapé, mais il faut voir les photos, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on s'en soit sorti vivant. Je perds mon arme de service, ma carte et ma médaille de police, enfin tous mes papiers, etc., que j'avais dans une sacoche qui a brûlé, enfin, etc. Et évidemment, je suis un peu blessé quand même au pied, donc on me conduit dans une clinique, on me recoue, etc. Et le lendemain matin, je réalise véritablement l'événement, parce qu'on était sous l'état de choc quand même avec la bombe. Et je me dis, je n'ai pas d'autre moyen, il faut que je prévienne la brigade criminelle, puisque j'ai perdu mes papiers, ma carte de police, mon arme, etc. Et j'appelle la brigade criminelle, et je dis, bonjour, c'est Young, ouais, tu vas bien? Je dis, non, pas trop. Je dis, écoute, je ne sais pas comment faire, mais hier, dans l'attentat de chez Mourouzi, j'étais dans l'appartement et j'ai perdu... toutes mes affaires. Oh, je me souviens de la réflexion au téléphone de mon ex-collègue qui me dit « Oh là 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 !» Allez, viens tout de suite. Et j'arrive avec des béquilles, d'ailleurs. Et à partir de là, j'étais montré du doigt, on va dire, et j'étais convoqué tout de suite.
Mais montré du doigt à cause de...
cause de la personnalité d'Yves, à cause qu'un fonctionnaire de police ne fréquente pas le milieu du spectacle, ne sort pas la nuit, ce que je faisais beaucoup.
Voilà, il faut le dire que vous étiez un flic de l'anti-gang, mais d'un type un peu particulier, vous êtes jeune et vous sortez beaucoup la nuit.
Je sors beaucoup la nuit, à l'époque je fonctionne beaucoup aux amphétamines, à la cocaïne, et donc je vis à 300 à l'heure, enfin... Et c'est vrai que je connais plein de gens du monde du spectacle, et toutes les nuits je sors, et pour être en forme, donc je prends des choses qui soutiennent, parce que je pouvais pas, ce qu'on m'a beaucoup reproché après, avec raison d'ailleurs. Et toujours est-il, quand les flics tout ça apprennent tout ça, je suis convoqué chez le directeur de la police judiciaire, à l'époque Monsieur Poisblanc, j'ai une conversation... Et là, il me dit, oui, non, c'est pas bien. Et puis, vous savez, l'anti-gang est une brigade virile. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Enfin, il y a tout ce genre de choses, parce que l'homosexualité d'Yves, etc., on a fait tout de suite des rapprochements, comme j'étais chez lui. Bon, enfin, qu'importe. Et à ce moment-là, je dis, mais attendez, monsieur le directeur, ça va pas passer comme ça. Je dis, il va falloir trouver quand même une explication sur l'histoire de l'attentat, etc. On me dit, ne cherchez pas, ça ne sert à rien, vous allez vous mettre dans... Et je dis, écoutez, et là, c'est l'erreur de jeunesse. Je dis, écoutez, si tout se passe bien, j'accepte que vous m'utiez de me faire quitter l'anti-gang, mais je n'accepterai jamais d'aller, et je prends le service le pire connu de Paris à l'époque, d'aller au commissariat de la Goutte d'Or. Et le directeur de la police me prend la main. Enfin, cher ami, Enfin, je n'y pensais pas. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis, parce que si ça arrivait, à ce moment-là, je parlais à la presse. Enfin, mais non, mais non, mais non. Enfin, le Bois Blanc était un homme costaud comme ça. Qui... Et le lendemain, pas plus tard que le lendemain, un motard est venu m'apporter ma mutation à la Goutte d'Or. Donc je me suis dit, oh là là, c'est mal barré. Voilà un peu le début de cette affaire et en fait ce qui m'est arrivé. Et à quelques jours plus tard, deux semaines plus tard, des collègues, et en particulier des collègues des services de renseignement, viennent me chercher, me passent les menottes, et on m'emmène dans un service où je suis entendu gardé. Et je suis, à partir de ce moment-là, envoyé à Fresnes, à la prison de Fresnes. Et je suis gardé au secret pendant 3 mois et demi, 4 mois presque, où je n'ai aucune... C'est-à-dire que je suis considéré comme quelqu'un qui a disparu.
Mais alors, ça paraît totalement incroyable, ouais. Hein, aujourd'hui.
On est en 1976.
On est en 1976. Vous êtes donc...
Enfin, là, l'occurrence, 78, puisque le temps...
Vous êtes interpellé. Vous êtes envoyé en prison, vous allez y rester 5 mois. Qu'est-ce qu'on vous reproche ?
Ben, rien, au départ, rien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment, il va bien falloir justifier mon incarcération. Alors, il y a des gens d'une brigade territoriale qui sont chargés de l'enquête et on dit, à ce moment-là, que j'ai commis des hold-up, un hold-up, on cherche, on perquisitionne, on retrouve chez moi une arme. Tous les flics de l'époque avaient toujours une arme en plus. C'était des trucs qu'on saisissait dans les perquisitions. On s'assurait, comme on disait, que l'arme ne voyait pas le jour, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas servi. Et on la gardait pour nous, comme on nous le conseillait à l'époque. Il y a prescription, je peux le dire, que s'il y avait une bavure... Le feu était ouvert sur quelqu'un, on mettait discrètement l'arme, donc on avait tous au moins 2 armes, ce qui était mon cas. Et puis, on épluche mes comptes, on s'aperçoit que j'ai loué des coffres, etc. Donc, ils recherchent les coffres, ils en trouvent 2, ils ne trouveront jamais le 3e.
Bref, ils essayent de bâtir un dossier vous. Alors, voilà. On va le dire, hein, l'accusation de hold-up, elle est complètement tombée.
Complètement tombée. Tout ça, c'est fini par des non-lieux. Toujours est-il que pendant ces 5 mois, et en particulier le dernier mois, mes collègues se sont vraiment acharnés quoi, pour essayer de trouver quelque chose. Et hormis la détention d'armes, et même pas de munitions d'ailleurs, parce que je n'avais pas de munitions, la détention d'armes, c'est tout ce qu'ils ont pu me reprocher. Et j'ai eu la chance... d'avoir un juge d'instruction, quand ils l'ont nommé, qui n'est pas resté aveugle. J'étais extrait de la prison régulièrement pour aller à son cabinet. Et un jour, l'interrogatoire, ils veulent me remettre un hold-up. Donc ils m'amènent des témoins. Bon, les gens ne me reconnaissent pas, pour cause. Mais ils avaient essayé de mettre ça sur le dos aussi. Et là, je redescends. Je dis, c'est quand même trop, quoi. J'étais pourtant solide, mais à l'époque, on me remet dans la cage, en garde à vue, en attendant le nouveau transfert à la prison. Et là, ce qui se passe, c'est que je m'effondre. Mais je m'effondre, je craque, quoi, vraiment. Et je me mets à pleurer. Alors, il y a 2 types qui vont sauver les meubles, si je peux dire. Et c'est 2 personnes qui, 30 ans après, qui je suis très reconnaissant. C'est un officier de paix qui me voit pleurer. Un jeune officier de paix qui ouvre la cellule, qui vient me voir, mais il me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'étais tellement abasourdi que je lui raconte des choses même qu'il n'aurait jamais dû savoir. Je lui dis, voilà ce qui se passe. Il me fait, mais c'est honteux, c'est pas possible. Écoute, je téléphone au juge. Ce qui ne se fait pas, ce qui est interdit même. Et il repart au bout d'une demi-heure d'entretien. Et 2 du commissariat du bas qui me gardait à vue téléphonent au juge d'instruction qui instruisait mon dossier. Et il revient avec un grand sourire et me fait « Attends, rassure-toi, je viens d'avoir le juge. » C'est le juge Feydeau qui est devenu ensuite président de la Cour d'assises de Paris. Et cet homme me fait dire, il prend un risque énorme, parce que c'est vraiment interdit, et il fait dire, par la voix de l'officier qui est venu me voir dans la cellule, « Dites-lui, M. Young, que J'ai bien vu les manigances autour de lui, ils en font trop. Et dites-lui aussi que d'ici quelques jours, je lui prononce un non-lieu et qu'il va retrouver sa liberté. Et effectivement, deux jours, trois jours après, à Fresnes, celui qui distribue les repas, il frappe, il me dit « Eh, t'es libéré !» Je dis « Tu déconnes quoi ?» Il me dit « Je crois que je vais m'amuser avec ça ?» Non. Et je me suis retrouvé donc dehors.
Alors vous allez vous retrouver dehors, puis vous allez quitter la police, vous allez après devenir journaliste. L'affaire de Breuil, ce scandale, est-ce qu'on a su la vérité? Il y a des gens qui ont été condamnés, mais est-ce qu'on a su la vérité? Est-ce que la version telle qu'elle a été présentée par Michel Poniatowski dans les jours qui suivent était la bonne?
Alors écoutez, je sais qu'en France, on aime beaucoup la cuisine française, mais tuer un ancien ministre, député, trésorier des Républicains indépendants pour l'histoire d'un restaurant, ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, le dossier judiciaire, l'enquête judiciaire, a démontré que ça ne tenait pas debout. Donc il y a un autre motif. Alors l'autre motif, il faut le chercher dans la personnalité de Jean de Breuil. Il faut insister sur ce monsieur qui était d'abord, qui appartient à une des plus grandes familles de France, qui est reconnue comme telle en tout cas, avec une fortune foncière colossale, mais lui est un monsieur qui n'a jamais su gérer ses affaires. Alors bien sûr, il a été ministre de Charles de Gaulle. Il a été aussi négociateur des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Et puis après le camp, quand le général est mort, effectivement, il s'est tourné vers Giscard, il est entré au Parti des Républicains indépendants, et il est devenu le trésorier des Républicains indépendants, chargé de préparer financièrement la campagne électorale de Giscard. Or, ce financement a été alimenté par de nombreux mécènes, on va dire, entre guillemets, dont d'ailleurs des princes arabes, des émirats, et les chiffres c'était en millions de francs à l'époque. C'était des sommes colossales. Que s'est-il passé? Manifestement, Jean de Breuil, après avoir fait monter différentes sociétés, bidons, pour gérer le fric, a confié tout ou partie de cet argent à Pierre de Varga, pour le gérer, pour lui faire rapporter des intérêts, etc. Et il apparaîtrait, je parle conditionnel, avec beaucoup de prudence, que lorsque l'heure de la campagne est arrivée, on a réclamé au trésorier des Républicains indépendants, savoir Jean de Breuil, d'envoyer l'argent. Et l'argent, Jean de Breuil ne l'avait plus, c'était de Varga qui, lui, a toujours dit qu'il n'avait jamais rien eu. Donc beaucoup d'argent, à ce moment-là, ont disparu. Est-ce là le mobile du meurtre? C'est possible. Je suis quasi persuadé que, en particulier, les services de renseignement, etc., en savent toujours beaucoup plus. Parce que je rappelle que l'affaire de Breuil, aujourd'hui, nous sommes en 2018, c'était en 1976, est toujours classée secret d'État, et on ne peut toujours pas avoir accès au dossier, même les historiens.
Oui, c'est secret défense. Secret défense, et donc effectivement, les archives sont interdites, même aux chercheurs.
Oui, même aux chercheurs, en tout cas pour l'instant. Donc on en apprendra peut-être plus tard, mais il y a quelque chose, parce que ce qui est vrai aussi, pour être intellectuellement honnête jusqu'au bout, et je le dis avec beaucoup de respect pour Jean de Breuil et la famille de M. de Breuil, c'est que M. de Breuil était un peu perdu. Il était un peu perdu et il avait tout le temps besoin, effectivement, d'argent et beaucoup d'argent. Et il a fait des rencontres mauvaises. Il a rencontré beaucoup de gens, des voyous, on va dire les mots. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé proche de gens qui faisaient du trafic de bons trésors, qui faisaient du trafic d'œuvres d'art, qui ont monté des escroqueries internationales. Et de Breuil était là, et de Breuil n'avait pas les épaules, l'étoffe pour fréquenter ces gens-là. C'était un homme, un aristocrate, déchu, mais quelque part, ça restait un honnête homme. Et donc, il s'est brûlé les ailes vis-à-vis de ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a aussi un motif qui vient autour de ces différentes affaires qui ont été épluchées pendant l'enquête puis l'instruction, ce n'est pas impossible non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'affaire de Breuil reste mystérieuse.